La société patrimoniale classique, le monde de Balzac et de Jane Austen. Les romanciers du XIXe siècle n'utilisent évidemment pas les mêmes catégories que nous pour évoquer les structures sociales de leur temps, mais ils décrivent les mêmes structures profondes, celles d'un monde où seule la possession d'un patrimoine important permet d'atteindre la véritable aisance. Il est frappant de constater à quel point les structures inégalitaires, les ordres de grandeur et les montants minutieusement choisis par Balzac comme par Jane Austen sont rigoureusement les mêmes des deux côtés de la Manche, malgré les différences des monnaies, des styles littéraires et des intrigues. Comme nous l'avons noté dans le chapitre 2, les repères monétaires sont extrêmement stables dans le monde sans inflation que décrivent Balzac et Austen, ce qui permet aux romanciers de définir très précisément à partir de quel niveau de fortune et de revenus il est possible de vivre avec un minimum d'élégance et d'échapper à la médiocrité. Dans les deux cas, ce seuil à la fois matériel et psychologique se situe aux alentours de 20 ou 30 fois le revenu moyen de leur temps. Au-dessous de ce seuil, le héros balzacien ou austinien vit avec difficulté, sans dignité. Ce seuil est parfaitement atteignable si l'on fait partie des 1% des personnes les plus riches en patrimoine, et de préférence si l'on s'approche des 0,5, voire des 0,1% des sociétés françaises et anglaises du XIXe siècle. Il renvoie donc à un groupe social bien identifié et numériquement conséquent. Un groupe minoritaire, certes, mais suffisamment nombreux pour structurer la société et pour alimenter tout un univers romanesque. Mais il est totalement hors d'atteinte si l'on se contente d'exercer un métier, si rémunérateur soit-il, les 1% des professions les mieux payées ne permettent en aucune façon d'accéder à ce train de vie, ni même d'ailleurs les 0,1%. Dans la plupart de ces romans, le cadre indissociablement monétaire, social et psychologique est planté dès les premières pages, puis est rappelé de temps à autre afin que personne n'oublie tout ce qui différencie les personnages en présence, tous ces signes monétaires qui conditionnent leur existence, leur rivalité, leur stratégie et leurs espoirs. Dans Le Père Goriot, la déchéance du vieillard s'exprime immédiatement par le fait qu'il a dû progressivement se contenter de la chambre la plus crasseuse et de la nourriture la plus élémentaire de la pension Vauquer afin de réduire sa dépense annuelle à 500 francs. Soit approximativement le revenu moyen annuel de l'époque, la misère absolue pour Balzac. Le vieil homme a tout sacrifié pour ses filles, qui ont chacune reçu une dot de 500 000 francs, soit une rente annuelle de 25 000 francs, environ 50 fois le revenu moyen. C'est dans tous les romans balzaciens l'unité élémentaire de la fortune, l'expression de la vraie richesse et de la vie élégante. Le contraste entre les deux extrêmes de la société est posé d'emblée. Pour autant, Balzac n'oublie pas qu'il existe entre la misère absolue et la véritable aisance toutes sortes de situations intermédiaires plus ou moins médiocres. Le petit domaine des Rastignac, situé près d'Angoulême, rapporte péniblement 3000 francs par an, soit 6 fois le revenu moyen. C'est pour Balzac l'exemple type de la petite noblesse provinciale et désargentée qui peut tout juste consacrer 1200 francs par an pour permettre à Eugène de venir étudier son droit dans la capitale. Dans le discours de Vautrin, le traitement annuel de 5000 francs, soit 10 fois le revenu moyen, que pourrait rapporter au jeune Rastignac un emploi de procureur du roi, après bien des efforts et des incertitudes, est l'exemple même de la médiocrité, démontrant mieux que tous les discours que les études ne mènent nulle part. Balzac nous dépeint une société où l'objectif minimum est d'atteindre 20 ou 30 fois le revenu moyen de l'époque, voire 50 fois, comme le permet la dot de Delphine et Anastasie, ou mieux encore 100 fois, grâce aux 50 000 francs de rente annuelle que rapporterait le million de Mademoiselle Victorine. Dans César Birotteau, l'audacieux parfumeur vise lui aussi à atteindre le million de francs de patrimoine, de façon à pouvoir conserver la moitié pour lui et sa femme, tout en consacrant 500 000 francs à la dot de sa fille, ce qui lui semble indispensable pour bien la marier et permettre à son futur gendre de racheter sans mal l'étude du notaire Roguin. Sa femme voudrait le ramener sur terre, le convaincre qu'ils peuvent prendre leur retraite avec 2000 francs de rente annuelle et marier leur fille avec seulement 8000 francs de rente. Mais César ne veut rien entendre. Il ne veut pas finir comme son associé Pillerault, qui se retire des affaires avec tout juste 5000 francs de rente. Pour vivre bien, il faut au moins 20-30 fois le revenu moyen. Avec 5 ou 10 fois la moyenne, on survit tout juste. On retrouve très précisément les mêmes ordres de grandeur de l'autre côté de la Manche. Dans « Le cœur et la raison », « Sense and Sensibility », le cœur de l'intrigue, à la fois monétaire et psychologique, se met en place dans les 10 premières pages, dans le cadre du terrible dialogue entre John Dashwood et sa femme Fanny. John vient d'hériter de l'immense domaine de Norland, qui rapporte un revenu de 4000 livres par an, soit plus de 100 fois le revenu moyen de l'époque, à peine plus de 30 livres par an dans le Royaume-Uni des années 1800-1810. Rappelons qu'une livre sterling vaut 25 francs au XIXe siècle et jusqu'en 1914. C'est l'exemple même du très grand domaine terrien, le sommet de l'aisance dans les romans de Jane Austen. Avec 2000 livres par an, soit plus de 60 fois le revenu moyen, le colonel Brandon et son domaine de Delaford sont tout à fait dans la norme de ce que l'on attend d'une grande propriété terrienne à l'époque. À d'autres occasions, on constate que 1000 livres par an peuvent fort bien suffire à un héros austinien. En revanche, avec 600 livres, 20 fois le revenu moyen, John Willoughby est vraiment à la limite inférieure de l'aisance, à tel point que l'on se demande comment le bel et impétueux jeune homme fait pour vivre sur un si grand pied avec si peu. D'ailleurs, cela explique sans doute pourquoi il abandonnera vite Marianne, désemparée et inconsolable, pour Mademoiselle Grey et sa dot de 50 000 livres de capital, 2 500 livres de rente annuelle, 80 fois le revenu moyen, dont on notera au passage qu'elle est presque exactement du même montant que la dot de 1 million de francs de Mademoiselle Victorine, compte tenu du taux de change en vigueur. De même que chez Balzac, une dot égale à la moitié de cette somme, comme celle de Delphine et Anastasie, est déjà tout à fait satisfaisante. Par exemple, Mademoiselle Morton, fille unique de Lord Norton, elle est avec ses 30 000 livres de capital, 1 500 livres de rente, 50 fois le revenu moyen, l'héritière parfaite, la cible de toutes les belles-mères, à commencer par Madame Ferrars, qui la verrait bien avec son fils Edward. Un proche de George III, à peine 30 ans plus tôt dans les années 1770, n'avait-il pas dit à Barry Lyndon que toute personne disposant d'un capital de 30 000 livres devrait logiquement être anoblie? Dès les premières pages, l'aisance de John Dashwood est contrastée à la relative pauvreté de ses demi-sœurs, Elinor, Marianne et Margaret, qui, avec leur mère, doivent se contenter en tout et pour tout de 500 livres de rente annuelle pour 4 personnes, soit 125 livres pour chacune, à peine plus de 4 fois le revenu moyen par habitant, ce qui est très insuffisant pour marier les jeunes filles. Madame Jennings, grande amatrice des potins mondains dans la campagne du Devonshire, se plaît d'ailleurs souvent à leur rappeler sans détour lors des multiples bals, visites de courtoisie et séances de musique qui rythment leur existence et où l'on croise souvent de jeunes et séduisants prétendants qui, malheureusement, ne restent pas toujours. La modicité de votre fortune peut les faire hésiter. De la même façon que chez Balzac, on vit très modestement avec 5 ou 10 fois le revenu moyen dans le roman de Jane Austen. Les revenus proches de la moyenne de 30 livres ou au-dessous ne sont d'ailleurs même pas évoqués. On se doute qu'on n'est pas loin du monde des domestiques. Il ne sert donc à rien d'en parler davantage. Quand Edward Ferrars envisage de devenir pasteur et d'accepter la cure de Delaford pour 200 livres par an, entre 6 et 7 fois le revenu moyen, il fait presque figure de saint. Même en complétant sa cure avec les revenus du petit capital que lui a laissé sa famille pour le punir de sa mésalliance, et avec la maigre rente apportée par Elinor, les deux époux n'iront pas très loin, et tout le monde s'étonne qu'ils puissent être assez aveuglés par l'amour pour penser que 350 livres par an leur vaudraient une existence confortable. Cette fin heureuse et vertueuse ne doit d'ailleurs pas masquer l'essentiel. En refusant sur les conseils de l'odieuse Fanny d'aider ses demi-sœurs et de partager un tant soit peu son immense fortune, malgré les promesses faites à son père sur son lit de mort, John Dashwood contraint Elinor et Marianne à une vie médiocre et aux humiliations. Leur destin est tout entier scellé par ce terrible dialogue introductif. À la fin du XIXe siècle, on voit parfois poindre le même type de structure monétaire et inégalitaire en Amérique. Dans Washington Square, roman publié en 1880 par Henry James et magnifiquement repris au cinéma dans le film L'héritière, réalisé par William Wyler en 1949, l'intrigue est entièrement construite autour d'une confusion sur le montant de la dot. On découvre que les montants sont impitoyables et qu'il vaut mieux ne pas se tromper. Catherine Sloper l'apprend à ses dépens et voit son fiancé la fuir quand il apprend que sa dot ne représente que 10 000 dollars de rente annuelle au lieu des 30 000 dollars escomptés, soit tout juste 20 fois le revenu moyen américain de l'époque au lieu de 60 fois. « Tu es trop laide !» lui lance son père, veuf, richissime et tyrannique, à l'image du prince Bolkonski avec la princesse Marie dans « Guerre et paix ». La situation des hommes peut également être très fragile. Dans la splendeur des Amberson, Orson Welles nous montre la chute d'un arrogant héritier, George, qui à son sommet disposait de 60 000 dollars de rente, 120 fois le revenu moyen, avant d'être déclassé autour de 1900-1910 par la révolution automobile et de finir avec un emploi à 350 dollars au-dessous du revenu moyen.